Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat d'été consacré ce soir aux trains, trains grande vitesse, trains de fret, trains régionaux ou encore trains de nuit. À l'ordre du jour ce soir, le train redémarre-t-il à toute vapeur? Comme le disait le Figaro au lendemain de l'entretien télévisé du président de la République le 14 juillet, personne ne l'attendait, le président de la République, sur ce terrain. Emmanuel Macron a en effet plaidé la cause des petites lignes de train, de fret et des trains de nuit. Depuis la nomination de Jean-Baptiste Djebbari comme ministre délégué auprès de Barbara Pompili, les déclarations du Premier ministre Jean Castex ont confirmé ces déclarations présidentielles. Qu'en est-il aujourd'hui des projets pour relancer le train en France? C'est ce dont nous allons débattre ce soir avec Jean-Baptiste Djebbari, donc ministre délégué au transport, avec Nicolas Debézieux, délégué général de RAICOP. Il nous expliquera ce qu'est cette coopérative ferroviaire, et avec Juliette Molin, qui est géographe et spécialiste justement du train.
C'est la première fois que vous venez en congrès de banalise, en gare des fades?
C'est la première fois et je suis invité depuis 4 années.
Et vous avez toujours remis à plus tard
ce déplacement. Ça fait 4 ans que je développe la grande interrogation, y aller ou ne pas y aller. Et là, j'ai sauté le pas, c'est formidable.
C'était l'interview à chaud d'un arrivant à la gare des Fades, quelques minutes à peine après sa descente du train. L'émotion d'un passant à l'acte pour respecter la terminologie banalytique en usage. Et maintenant, un grand moment de ce congrès ordinaire, le traditionnel discours du président, quelques minutes seulement avant le toast de bienvenue, toujours sur le quai glacial et désert de la gare des Fades, puis de Dôme.
Mesdames, messieurs, au nom de la banalise, soyez remerciés d'être venus rehausser de votre présence le 6e congrès ordinaire.
Bonsoir, monsieur le ministre.
Bonsoir à vous.
Merci d'être avec nous. C'est un reportage, on a peut-être reconnu pour les auditeurs de France Culture, la voix de Brice Couturier. C'était dans les Nuits Magnétiques en 1987. Et un reportage lors d'un congrès de banalistes qui se tenait tous les ans entre 1982 et 1991 sur le quai de la halte ferroviaire des Fades sur la ligne SNCF Montluçon-Clermont-Ferrand. Et c'était, disons, une suite du mouvement en particulier psychanalytique, mais aussi du mouvement qui pouvait avoir été mis en œuvre par les situationnistes dans les années 60 et 1970. On se retrouvait entre congressistes, on écoutait le discours du président et on se quittait aussi vite, enfin plutôt dès qu'arrivait un nouveau train pour repartir de ce viaduc et de cette gare des Fades. Voilà ce que permettaient les petites lignes de train, Jean-Baptiste Djebbari, c'est-à-dire une vision poétique de la France, au moins.
Oui, les gares comme lieu de passage, lieu de vie, lieu d'attente, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu, comme symbole aussi de l'État. On a vu dans la crise des Gilets jaunes qu'on a traversée il y a maintenant 18 mois à quel point la fermeture d'une petite ligne ferroviaire ou d'une gare constituait dans la perception le recul de l'État et donc une forme d'abandon ou de mise en périphérie ou d'assignation à résidence. Et nous avons voulu relancer il y a maintenant quasiment plus d'un an un grand projet des mille et une gares pour refaire des gares, justement, ces lieux de vie, de passage, ces tiers-lieux de services publics. On s'aperçoit qu'on a souvent dans les territoires des services publics un peu disséminés, la CAF, la Poste. Et la gare peut tout à fait être réhabilitée et à nouveau, finalement, drainer du passage et reprendre du sens et aussi du sens symbolique.
On en a beaucoup fermé, on en a beaucoup transformé. Certaines ont été transformées en habitation parce que les lignes étaient désertées. Et donc, il y a un fort recul. On dit même que c'est un recul historique, pourrait-on dire, de lignes de train dans notre territoire.
Parce qu'on arrive un peu à... On a connu l'acmé du recul, finalement, avant 2017, sans faire trop de poétique poéticienne. Mais on a eu un très grand mouvement de surinvestissement dans les lignes à grande vitesse, où finalement, chaque élu voulait un TGV et une gare TGV, même si le TGV est circulé à 80 km/h entre deux gares. Et ce mouvement, il a été arrêté en 2017, justement pour réinvestir le champ des petites lignes ferroviaires. Comme député à l'époque, j'avais été rapporteur du pacte ferroviaire, j'avais demandé...
Je rappelle que vous êtes député du Limousin, voilà.
Limoges, la Haute-Vienne, et j'avais demandé un rapport très précis, le rapport qui avait été rendu par le préfet Philizot, qui avait fait un tour de France et qui avait permis de chiffrer très précisément l'état des voies, l'état des lignes et le coût de régénération. Dans l'idée de régénérer...
C'est très cher. Plusieurs milliards d'euros.
Raison pour laquelle on a travaillé avec les régions sur un protocole de sauvetage des petites lignes. On a aussi réinvesti finalement dans le petit train, faire du train plus léger. On a connu des trains qui se sont extraordinairement massifiés pour finalement emporter peu de personnes ces dernières années. Donc on a lancé... Voilà, le retour du train de proximité, le retour du petit train, la régénération qui sera de fait beaucoup plus économe. Et on essaie de faire finalement naître un réseau qui a peut-être existé au début des années 1900 jusqu'à 1936. C'est ces réseaux partiellement régionaux qui accueillaient des trafics moins denses avec des trains moins capacitifs mais plus légers et donc moins chers. C'est ce qu'on essaye, en lien avec les régions, de relancer comme dynamique.
Nicolas de Bézieux, bonsoir.
Bonsoir.
C'est ce que vous voulez faire aussi avec RAICOP, donc la première coopérative française ferroviaire, c'est reprendre des petites lignes, donc en commençant par des lignes de fret peut-être dès l'année prochaine et des lignes de voyageurs dès l'année suivante?
Alors, d'une manière générale, effectivement, c'est de développer l'offre. C'est-à-dire que ce que vient de dire exactement Monsieur le Ministre, c'est quelque part, il y a une attente aujourd'hui très forte pour avoir du train sur tous les territoires. Et ce qu'on constate, c'est que y a des manques, il y a des territoires qui sont pas desservis, mal desservis. Et donc, ce que compte faire la coopérative RAICOP, c'est effectivement redévelopper un certain nombre de lignes. Donc, notre première ligne, ce sera Bordeaux-Lyon, mais effectivement, à terme, c'est essayer de voir comment
vous
on arrive.
Vous avez déposé une demande auprès de l'ART, l'autorité des transports, exactement, pour pouvoir exploiter justement cette ligne Bordeaux-Lyon, mais c'est une demande pour l'instant, ça n'a pas été encore accordé.
Alors, c'est une demande, mais très vraisemblablement, enfin, je veux pas me mettre à la place de l'ART, mais pour être clair, ce que l'autorité de régulation des transports va étudier, c'est de voir si on perturbe l'équilibre économique d'un service public. En l'occurrence, je doute qu'on perturbe l'équilibre économique d'un service public puisqu'on recrée une offre nouvelle. Donc je ne pense pas que la ligne, mais il faut attendre effectivement la décision de l'ART.
C'est une autorité, tout de même.
C'est une autorité, mais pour être très clair, dans la philosophie de RAICOP, c'est ça, c'est de voir comment, pour être très clair, comment on passe de 10% à peu près de part modale du ferroviaire à 15, à 20. Comment on arrive, en impliquant effectivement les citoyens, les territoires, à aller vraiment vers un redéveloppement massif de l'offre.
Juliette Mola, vous êtes avec nous. Vous êtes maître de conférence en urbanisme et aménagement à l'Université de Paris 1. Vous êtes chercheuse au laboratoire de géographie cité. Vous avez travaillé en particulier sur la SNCF et sur les difficultés qu'avait parfois la SNCF à assurer certaines de ses tâches. Dans la discussion en particulier avec les régions, j'aimerais bien avoir votre avis justement sur l'état dans lequel on trouve aujourd'hui les lignes ferroviaires en France et la nécessité de peut-être de le faire redémarrer, que ça soit pour les trains de nuit ou pour d'autres petites lignes, ainsi qu'en lien avec les politiques européennes qui sont à l'œuvre. Mais peut-être d'abord l'état du trafic, pourrait-on dire, l'état des faits que vous avez pu observer en tant qu'universitaire. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Effectivement, donc cet état du réseau ferroviaire français, il est partagé par un certain nombre d'observateurs, hein, et l'état, il est pas très bon. Si je rebondis sur la question des petites lignes qui étaient évoquées juste avant, il est fait le constat, ces petites lignes, de quoi on parle? C'est à peu près un tiers du réseau ferroviaire français, c'est des lignes qui accueillent souvent moins de 10 trains par jour et qui sont dans un état, en termes d'infrastructure, qui est mauvais. Ce diagnostic assez critique sur l'état du réseau n'est pas nouveau, hein. Déjà dès 2005, il y avait eu un rapport qui s'appelait le rapport Rivier, qui avait bien montré l'état dégradé de l'ensemble du réseau ferroviaire français. Et ces petites lignes, effectivement, elles sont concernées par des fermetures de services, des suppressions de services importantes. Un seul chiffre, hein, depuis 2011, c'est environ 1000 km de petites lignes qui ont été concernées par des suppressions de services. Et ces petites lignes, elles posent évidemment la question peut-être d'une réflexion un peu différente, hein. Pour l'instant, les décisions de fermeture sont prises en fonction de logiques, disons, comptables. On évalue le coût de ces infrastructures, le coût des services associés, et on réfléchit peut-être moins en termes de potentiel. Et sur ce point, il y a un certain nombre de chercheurs, hein, qui invitent un peu à changer le regard sur ces petites lignes, et notamment raisonner plutôt au regard de leur potentiel, ce qu'elles offrent en termes d'accessibilité pour un territoire, en termes d'accès aux emplois, en termes d'accès aux services ou aux aménités touristiques. Et ce sont des perspectives, en tout cas, qui suggèrent de renouveler un peu les approches de ces petites lignes. Donc, un premier élément de réponse sur ces petites lignes qui sont actuellement, hein, qui ont été fortement financées par les régions dans leur rénovation. Et j'entendais monsieur Monsieur Djebari soulignait l'investissement de l'État. Ce que les régions soulignent, c'est plutôt un désinvestissement de l'État. Elles ont, mais bon, j'imagine qu'on pourra y revenir.
Ben, on va y revenir tout de suite puisque Jean-Baptiste Djebari est en face de moi. Alors, désinvestissement de l'État et lien avec les régions, parce que tout compte fait, c'est une question de financement d'abord qui compte. C'est comment rénover ces lignes, comment les doter de nouvelles rames en particulier, et qui paiera.
Je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, c'est vrai que le réseau en France est ancien. En moyenne, 28 à 29 ans d'âge, c'est deux fois plus que les Allemands. Le réseau des petites lignes ferroviaires du réseau secondaire, c'est plutôt parfois plus. Et par exemple, en Limousin et ailleurs, vous avez des lignes qui ont jusqu'à 80 ans d'âge. Donc c'est tout à fait considérable. Et vous avez effectivement à la fois un cercle vertueux, enfin un cercle vicieux politique qu'il faut briser, et puis de nouveaux modèles opérationnels à créer.
Mais ça vient d'où dans la tête des décideurs, qu'ils soient étatiques ou qu'ils soient régionaux, que d'avoir à un moment donné considéré que ça n'était pas si important que cela, que de fermer ces lignes, que ça n'était pas si important de les doter de moyens, et qu'au bout du compte, on pouvait remplacer cela par le covoiturage, par la voiture, par des bus qui remplaceraient les trains, etc. Ça vient d'où ?
Je pense qu'il y a eu deux choses simultanées. Il y a eu la préférence pour les lignes à grande vitesse, qui ont surconsommé des crédits budgétaires qui se sont au fil du temps un peu raréfiés. Et d'ailleurs, y compris la SNCF, les administrations ont appris à vivre et à gérer la décroissance. Et donc, à toujours plus investir sur la grande vitesse et toujours moins sur le réseau secondaire. Et puis, il y a eu ce cercle vicieux politique. C'est-à-dire que, finalement, dans la période récente, vous avez un État qui payait mal, ou payait avec retard. Vous avez une région parfois qui ne décidait pas des vocations de tel ou tel réseau, qui sont aujourd'hui d'ailleurs les chefs de file de l'organisation des mobilités au sens large. Et vous aviez la SNCF prise dans des injonctions contraires. Et il a fallu, je crois, changer à la fois la dynamique de la décision politique, peut-être dans une dynamique beaucoup plus partenariale. Moi, j'ai signé les deux premiers protocoles petites lignes pour un volume considérable. On a signé plus d'un milliard d'euros.
Quand vous étiez secrétaire d'État, déjà ?
Absolument, le 20 février dernier, un milliard d'euros quasiment avec la région Grand Est pour sauver déjà plus de 1000 km de petites lignes avec Centre-Val de Loire, et nous allons continuer ce protocole partenarial avec les régions. En revanche, sur la dimension financière, il y a quand même des chiffres qu'il faut réactualiser dans les esprits. C'est que, effectivement, en investissement, les régions payent aujourd'hui 60% environ de l'investissement et 40% pour la puissance publique, enfin, en tout cas l'État et SNCF Réseau. Mais quand vous ajoutez à ça l'entretien, c'est 85% que paye la puissance publique et 15% les régions. Donc on a une tendance peut-être un peu surpondéré le poids.
Vous voulez dire que les discussions, les débats entre la région et l'État sont assez tendus ces temps-ci, ou l'ont toujours été, Jean-Baptiste Djebari?
Ça a toujours été, parce qu'évidemment, quand vous avez des grandes régions, vous avez des présidents de région ou des présidents de région qui sont des personnalités politiques d'ambition et de niveau national, donc ça crée évidemment possiblement des tensions. Mais je crois surtout qu'il faut s'accorder sur un nouveau modèle du ferroviaire en région et notamment pour les petites lignes.
Quand c'est difficile à penser un nouveau modèle quand on nous a habitués, en tant que citoyens, à la déshérence. C'est-à-dire, on nous a dit progressivement, ça n'est plus ça le moyen moderne de transport.
Quand je dis un nouveau modèle pour les petites lignes, ça veut dire faire circuler des trains plus légers, qui effectivement n'emportent peut-être pas 200 personnes, mais plutôt 100 personnes. Des trains qui coûtent 30 à 40% moins cher à l'acquisition, à l'exploitation. Des trains que vont construire les constructeurs ferroviaires. Tant que vous ne dites pas que c'est ce que vous voulez de conserve avec les régions, les constructeurs ne construisent pas les trains plus légers. Et puis ça nécessite aussi d'engager ce grand travail de régénération des voies, d'avoir une régénération économe, puisque vous faites passer des trains plus légers. Mmh. Mais il suppose ce grand mouvement que tout le monde bosse ensemble, travaille ensemble et arrive à faire advenir ce nouveau modèle ferroviaire ensemble.
Nicolas Debézieux, puisque cette coopérative dont vous êtes le directeur général a l'intention de se lancer dans le fret dès l'année prochaine et également donc dans le transport de voyageurs pour des lignes comme Bordeaux-Lyon et peut-être d'autres et donc, ensuite, oui. Vous allez les doter comment ces lignes, quel matériel allez-vous utiliser? Combien d'ailleurs coûte une rame pour pouvoir faire transporter des voyageurs sur des lignes comme celle-ci?
Alors ça coûte très cher, hein. Actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, une rame Régelise, dans les discussions donc, qu'on a avec Alstom, on est sur 13 millions d'euros la rame.
Ah, j'en étais resté à 11 millions, il y en a deux de plus.
Il y a une inflation ferroviaire, effectivement, donc c'est effectivement très cher. Et d'ailleurs, ce qui est important de souligner, c'est que pourquoi est-ce que le ferroviaire coûte cher en exploitation? C'est parce qu'il y a effectivement un certain nombre de coûts, dont le coût du matériel, qui coûte cher. Pourquoi le matériel ferroviaire coûte cher? Parce que le réseau ferroviaire, aujourd'hui, n'est pas interopérable au niveau européen.
Interopérable, ça veut dire
c'est-à-dire que aujourd'hui, vous pouvez pas avoir un matériel, par exemple, je prends le Coradia eLint qui circule à hydrogène, qui circule léger en Allemagne, il est pas homologué pour rouler en France. Donc il n'y a pas d'harmonisation européenne. Ce qui veut dire que on est obligé d'avoir des systèmes de signalisation sur le réseau ferré qui coûtent très cher. On n'a pas un marché européen du matériel ferroviaire. Donc ça veut dire qu'il y a des barrières à l'entrée, notamment pour développer des lignes qui sont assez conséquentes.
Et pourquoi la forme coopérative, pourquoi pas une forme privée tout simplement, comme les premières lignes de train ont été sur le territoire français au 19e ou au début du 20e siècle, avant les nationalisations en particulier?
Alors on est une société coopérative d'intérêt collectif, et intérêt collectif, ça a vraiment son sens. C'est-à-dire que nous, on se place entre des sociétés privées classiques qui vont rentrer sur le marché. Il y a la Renfe, il y a Tello qui ont annoncé effectivement des lignes.
La Renfe, c'est donc les chemins de fer espagnols. La Tello, c'est les chemins de fer italiens. Mais qui ont arrêté, par exemple, d'exploiter une ligne comme le Paris-Venise avec la Covid. Ils ont arrêté d'exploiter.
Mais ça va revenir. Je pense que c'est juste une question conjoncturelle. C'est pas. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des entreprises. Mais on constate la même chose dans d'autres pays. Par exemple, en Autriche, il y a Vesban. En Italie, il y a Italo. C'est-à-dire des entreprises privées aujourd'hui pour rentrer sur le ferroviaire, ça nécessite des moyens capitalistiques extrêmement importants. Donc ces entreprises vont finalement se positionner sur la grande vitesse. Nous, on est une société privée d'intérêt collectif. Ça veut dire que la finalité de l'entreprise, ce n'est pas d'aller chercher les marges les plus importantes qu'on pourrait avoir. C'est d'aller dans des lignes qui ont un sens pour le territoire.
Et qui seraient rentables, selon vous ?
Et qui seront économiquement viables. On a fait des analyses, effectivement.
On dit que vous avez un petit peu augmenté, vous dites 650 000 personnes potentielles sur le Bordeaux-Lyon par an. Certains disent que ce n'est pas possible.
Ben, écoutez, on peut toujours débattre des chiffres. Nous, ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a un intérêt majeur. Juste pour vous donner un chiffre. Quand on a démarré la coopérative, il y a moins de 6 mois maintenant, on l'a démarré à 30. En 6 mois, on est passé à 1500. On est 1500 sociétaires. Et tous les jours, on reçoit des demandes supplémentaires pour nous rejoindre. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a une demande. Et après, ça dépend comment on va chercher cette demande. Quels sont les services ?
Jean-Baptiste Djebbari, en tant que ministre, c'est ce genre d'initiative que vous voulez aider, soutenir, épauler, enfin, quel est le terme qu'on peut employer ?
D'abord, moi j'étais entrepreneur, donc je soutiens toutes les bonnes volontés. Je l'ai dit, on est dans un moment où on est en train de transformer les modèles économiques, y compris les modèles d'opération sur tous les modes, et y compris le mode ferroviaire. Je pense qu'il y a un sujet de normes, vous avez raison. D'abord, on a un appétit en France pour les normes, on a des ingénieurs qui travaillent très bien. Et qui
En même temps, quand on a eu des accidents ferroviaires, on n'est pas content plus, donc il faut bien des normes.
On fait un gros travail là, avec notre partenaire allemand pour essayer justement de prendre le meilleur et le plus simple des normes, de manière à avancer. Il y a une vraie dynamique européenne. Vous avez raison sur le marché du matériel roulant, qui est par ailleurs vétuste. Donc on est en train de travailler ce qu'on appelle une ROSCO, qui permettra de mutualiser un certain nombre de matériel. Et oui, actuellement, vous avez plusieurs types de marchés. Vous avez le marché vraiment diffus, le marché du TER, pour le dire comme ça, avec bien souvent 30% du train qui est rempli, des taux de subvention qui sont très forts. Et donc là, réellement...
Et en même temps, une véritable utilité aussi.
Bien sûr, j'entendais Mme Moula qui parlait d'utilité socio-économique. Il est évident que si vous regardez la majeure partie des contrats TER, aucun contrat TER ne sera jamais rentable. Après, vous avez le marché de monsieur qui se situe davantage sur des liaisons, on va dire, moyenne distance entre grandes agglomérations qui peuvent trouver un équilibre économique. Et puis vous avez la très grande vitesse et la très grande fréquence, Paris-Lille, Paris-Lyon, qui structurellement, pour le coup, sont excédentaires et qui... aiguise les appétits, pour le dire comme ça.
C'était donc le 14 juillet, lors de l'interview du 14 juillet, Emmanuel Macron.
Partout où nous avons déployé du TGV dans notre pays, et où telle ou telle ville est à 2 heures de Paris, 2 heures et quart, est-ce que les lignes intérieures, qui sont de 1h, 1h10, se justifient encore ? Non. Et donc là, on doit rationaliser notre modèle. Par contre, quand vous avez le train qui met 3, 4, 5, 6 heures, est-ce que la ligne, le vol domestique, la ligne d'avion se justifie ? Oui. Parce que on a besoin d'aller à Brive, on a besoin de continuer à développer à Toulouse, à Pau, de l'industrie. On a besoin de continuer à aller dans des villes qui sont des chefs-lieux de département, elles-mêmes des métropoles où l'industrie a commencé à se développer. Et on ne va pas du jour au lendemain dire on ne fait plus d'avions. Donc il faut le faire là aussi avec du bon sens. Mais ce sont des choses très concrètes, la transition écologique. On va redévelopper le fret ferroviaire. Massivement. On va redévelopper les trains de nuit, là aussi. On va redévelopper les petites lignes de train, Parce que tout ça, ça permet de faire des économies et ça permet de réduire nos émissions.
Juliette Molin, en tant que géographe spécialiste justement de cette question du transport par train, est-ce que vous avez été surprise par la déclaration d'Emmanuel Macron le 14 juillet dernier ?
Oui, effectivement, enfin, c'était un peu surprenant.
C'était une sorte de contre-pied pour vous par rapport à une tendance qui semblait aller toujours dans le même sens ?
Oui, en tout cas, suite aux annonces, notamment sur les secteurs aériens et routiers, on se posait la question du soutien au secteur ferroviaire. Et du coup, je me permets de rebondir sur cette idée que l'État, effectivement, contribue beaucoup au financement de cette infrastructure ferroviaire. Ça n'est pas, je ne nie pas ça. Par contre, effectivement, quand vous évoquez la question des tensions entre l'État et la région, les tensions, elles viennent des questions de financement, mais aussi les régions bon, qui sont des contributeurs importants, réclame une part importante, plus importante aux décisions. Et notamment aux décisions en termes d'arbitrage, en termes d'investissement. Mmh. Je pense notamment au contrat de performance entre l'État et SNCF Réseau, qui, par exemple, en 2017, les régions n'étaient pas tout à fait dans la même lignée que ce qui avait été acté dans ce contrat, hein, qui n'évoquait pas d'ailleurs la question des petites lignes. Donc ces régions, elles réclament un peu plus de voix au chapitre. Elles ont eu plus de compétences, notamment vis-à-vis de la SNCF exploitant. Et sur le réseau, c'est vrai qu'elles demandent plus de transparence sur, par exemple, la fixation des péages ou encore les coûts qui sont annoncés par SNCF Réseau sur les montants d'investissement nécessaires pour renouveler ou maintenir l'état du réseau.
Du réseau.
Et je pense que ça pose la question d'enjeux de gouvernance autour de la prise de décision, non seulement qu'au financement, mais aussi la place des régions dans la décision et puis derrière des citoyens, comme l'évoquait.
Jean-Baptiste Djebbari va vous répondre, en l'occurrence, effectivement, mais puisque le mot-clé de ce gouvernement, c'est les territoires, c'est le dialogue et la discussion avec les territoires, j'imagine qu'on va bien discuter avec les régions.
Et la confiance, je pense que tout. Rien ne sera possible sans la confiance. Et ce qu'on essaie de rétablir, c'est effectivement le dialogue. Tout ce qu'a dit Mme Mollet est juste sur les demandes des régions d'avoir une gouvernance beaucoup plus transparente, une capacité pour la SNCF.
C'est quoi une gouvernance transparente du réseau ferroviaire ? Expliquez-nous, parce que moi, en tant que citoyen, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Non, mais en fait, vous voyez, la SNCF, en 1945, s'est unifiée comme un monopole à la fois sur le réseau et le trafic voyageur. Depuis, on a scindé les activités. Et vous avez un groupe SNCF qu'on a encore transformé en 2018 et qui maintenant exploite en monopole le réseau, c'est-à-dire les voies ferrées, la signalisation, et pour lequel un des clients est la SNCF, qui reste encore aujourd'hui très largement
en prévision d'ouverture à la concurrence.
Donc il y a parfois des présidents de région qui nous disent « moi je veux faire venir de la concurrence chez moi, mais je sais que j'ai d'un côté SNCF Réseau qui n'est pas transparent par exemple dans ses coûts, et de l'autre côté la maison mère SNCF qui est très largement monopolistique de fait. Et donc je veux de la transparence dans la gouvernance de l'une et l'autre des entités pour savoir que par exemple le patron de SNCF Réseau est bien indépendant par rapport au patron de SNCF Mobilité devenu SNCF Voyageurs. » Ce genre de choses très concrètes pour les présidents de région. Et ils ont raison de ce point de vue-là.
Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que ministre, justement ? C'est mettre tout le monde autour de la table ?
D'abord, nous avons installé une autorité de régulation des transports qui vérifie tout ça de façon extrêmement précise.
C'est ce dont on parlait tout à l'heure.
Il faut créer de la confiance politique entre les acteurs pour leur dire qu'effectivement, nous demandons de gros efforts de transformation à l'une et à l'autre des entités. Il y a encore des modèles qui sont peu satisfaisant en termes de comptabilité, de connaissance des coûts, de modèle industriel. Et nous demandons typiquement beaucoup d'efforts à SNCF.
Et vous ne craignez pas une nouvelle grogne au sein de la SNCF qui pourrait redémarrer avec les grèves que nous avons connues il y a peu de temps,
tout de même? D'abord, je n'ai connu que des grognes. Donc, si vous voulez, j'ai appris à évoluer dans cette atmosphère parfois un peu dissensuelle. Mais non, je crois que chacun a à gagner. Nous allons beaucoup investir sur le réseau. Nous avons un réseau qui est vétuste, qui est vieux. Nous allons énormément investir sur la signalisation pour le remettre, pour d'abord faire le réseau le pivot du système ferroviaire. Et donc, c'est évidemment des emplois dans les territoires pour construire, pour mettre à niveau, pour le moderniser, dans le but de faire de la croissance, d'avoir plus d'opérateurs ferroviaires, plus de trafic, plus de personnes.
On a un chiffrage de cette enveloppe pour moderniser le réseau ?
C'est plusieurs, c'est quasiment 10 milliards d'euros à horizon 10 ans.
Avec une aide qui viendra justement de ces nouveaux fonds votés par le Conseil européen, par exemple.
Alors d'abord, effectivement, il y a un volet du Green Deal et du plan de relance européen qui nous permettra de mobiliser effectivement des fonds tout de suite pour pallier d'abord à des surcoûts qui se sont manifestés pendant la crise du Covid. Et puis, d'une manière générale, il y a déjà énormément de contributions publiques. J'ai souvent cité, parce qu'on m'a souvent opposé les chiffres des 7 milliards de prêts à Air France KLM versus ce qu'on a fait pour le réseau ferroviaire. Chaque année, le système ferroviaire, c'est 15 milliards d'euros de contributions publiques. État, région, de contributions publiques. C'est énorme. Il n'y a aucun mode en France de transport qui bénéficie de subventions publiques ou de contributions publiques de cet ordre-là. Mais on oublie souvent ça. On oublie souvent ça, et donc il est bon de le rappeler. Donc c'est de l'argent de l'impôt, donc in fine des entreprises, des ménages, qui doit être bien investi, qui doit être investi de façon productive et qui doit nous permettre d'avoir un réseau structurant, modernisé et qui rend un bon service aux usagers, dont la seule dimension, évidemment, ne peut pas être que la rentabilité financière, car on l'a dit, bien souvent, ça remplit des services publics. Et puis, autre chose pour reprendre la symbolique que vous utilisiez au début.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Je m'en vais vers le soleil, dans la fin de nuit. Tout là-bas, c'est le réveil, dans la fin de nuit. J'ai ma valise et mon billet, pour le train de nuit. Je m'en vais, j'en ai assez, assez de Paris. Oh oui, je suis sur le chemin du paradis, dans le train de nuit. Le chef de gare est là. Le voilà, pour le train de nuit, c'est le départ, oui, le départ. Dans le train de nuit, j'ai le cœur qui bat, bat, on s'en va, dans le train de nuit, yeah, yeah.
Vous avez reconnu évidemment Petula Clark, je suis un peu nostalgique, faut croire, des années 60 à 80, puisque j'ai commencé cette émission par le congrès annuel de banalise de 1987, et là, c'est un titre de 1962 pour évoquer ces trains de nuit qui vont peut-être redémarrer. Vous êtes en train d'écouter le temps du débat d'été, le train redémarre-t-il à toute vapeur, en compagnie du ministre délégué au transport Jean-Baptiste Djebbari, de Nicolas Debézieux, délégué général de RAILCOP, et de Juliette Mollat, géographe. Cette question des trains de nuit, Juliette Mollat, vous y avez travailler aussi, c'est une question étrange parce qu'on a vu fondre ces lignes de train de nuit de manière tout à fait exceptionnelle. Je crois qu'il n'y en a plus que deux désormais qui fonctionnent.
Oui, c'est ça, avec aussi cette question des trains de nuit qui fait aussi penser à la question des lignes de fret, hein, certaines qui ont été supprimées récemment. On pense notamment au train des primeurs, hein, qui avait suscité beaucoup de, disons, de réactions. Sur les trains de nuit, alors c'est pas trop ma spécialité, je vous avoue.
Non, non, mais je crois qu'il y en a deux, c'est Paris-Briançon et Paris-La Tour de Carole, ouais. C'est ça pour l'instant.
Exactement, oui. Et effectivement, ce qui est intéressant dans ces trains de nuit, c'est que ce qui est mis en avant, c'est finalement c'est la fermeture qui a suscité une forme de réaction pour ça. Certains qualifiés de nostalgie vis-à-vis d'un service ancien et qui, pour certains, évoque des souvenirs de vacances. Mais il y a un certain nombre d'associations qui ont souligné que ce qui était intéressant dans ces trains de nuit, c'était aussi de regarder quelle était peut-être la sociologie des personnes qui les utilisaient et qu'ils offraient qui les fréquentent et qui offraient un service singulier et une accessibilité pour des personnes, par exemple, ayant des ressources plutôt limitées et qui, du coup, peuvent bénéficier de ces offres pour partir en vacances. Ouais.
Nicolas Debézieux, vous n'avez pas l'intention de mettre en place des trains de nuit ?
Alors, si, bien sûr, on a regardé. Il y a des lignes qui sont économiquement viables, sur lesquelles on pourrait se positionner à condition de trouver du matériel. Mais je voudrais revenir sur trois choses, parce que on a beaucoup parlé de l'État et des régions dans le financement du ferroviaire. Et j'aimerais rappeler pourquoi est-ce qu'on a créé cette coopérative. Parce que RAILCOP, c'est vraiment pour réapproprier la question. Aujourd'hui, le ferroviaire est souvent perçu comme quelque chose d'exogène au territoire. Quand une commune fait une zone d'activité, elle va pas réfléchir à ce qu'elle soit embranchée. Quand une région planifie un service en plus sur ses grandes régions, elle va raisonner au niveau régional sans forcément voir le prisme.
Elle préférera la bretelle d'autoroute à la possibilité de rejoindre un réseau ferré.
Alors voilà, éventuellement il y a ça. Et puis il y a une vision du ferroviaire qui dépend du niveau en fait du territoire aussi dans lequel on est. Et pourquoi est-ce qu'on a créé Railcop ? C'est justement pour à un moment donné permettre à des citoyens, permettre à des collectivités locales infrarégionales d'avoir une vision différente sur les ferroviaires et de reprendre la main quelque part. Ça, c'est le premier point. Et je voudrais rajouter juste un deuxième point, parce que on dit souvent le ferroviaire, c'est cher. Mais on ne compare pas le coût du ferroviaire au coût de la route. Et quand on regarde effectivement ce que les Français dépensent en essence, on n'est pas sur la même chose.
C'est-à-dire?
Donc le ferroviaire, par exemple, l'autre jour je regardais les chiffres sur l'achat des carburants par les Français, on est sur 117 milliards d'euros par an qui sont dépensés pour l'achat de carburant. Et on rajoute effectivement les assurances, on rajoute le coût d'achat du véhicule, on rajoute les coûts effectivement liés à l'infrastructure routière qui sont portés par la puissance publique. Donc on n'est pas sur le même ordre de grandeur, et le ferroviaire par rapport aux bénéfices qu'il propose n'est pas un mode de transport cher. C'est pas un mode de transport cher.
Jean-Baptiste Djebari.
Je suis un peu en opposition avec ça, parce que d'abord, quand vous êtes ministre des Transports, vous raisonnez en complémentarité des modes. Quand vous allez,
on n'a pas parlé de l'avion, par exemple, puisque vous êtes vous-même, vous avez une formation de pilote de ligne, il faut le rappeler.
Par nature conflicté. Mais et j'aime l'avion, j'aime le ferroviaire. Et je disais, la vie du rail est petit, donc vous voyez, on peut tout à fait être multiculturel. C'est pas du tout incompatible. Mais la réalité de l'aménagement du territoire aujourd'hui, c'est que quand vous êtes à Aurillac, vous avez besoin d'une ligne ferroviaire qui aujourd'hui met quasiment 7 heures pour aller à Aurillac. C'est la même chose par la route. Vous avez besoin, quand vous êtes entrepreneur à Aurillac, d'avoir une liaison subventionnée pour relier la capitale par l'avion. Et quand vous êtes effectivement en zone rurale à Saint-Laurent-sur-Gorre et que vous travaillez à 15 km, vous le faites par la route, en voiture. En zone rurale, la voiture est la réalité des déplacements de tous les jours. Ça nécessite de verdir les véhicules. Et c'est pour ça que moi, parfois, je m'agace de voir les uns et les autres se construire par opposition à d'autres modes. Alors que les territoires, et vous avez raison...
C'est pas une opposition.
Vous avez raison sur le fait d'abord de raisonner différemment du ferroviaire, de refaire préférer le train, et tout ça est très juste. Et que c'est un mode par construction qui est beaucoup plus vertueux sur le plan environnemental, parce que il est électrifié, parce que nous avons du nucléaire en France. Il faut remonter un petit peu aussi, la filière énergétique. Mais fondamentalement, le monde des transports, prenez les autoroutes, par exemple, aujourd'hui, qui suscitent beaucoup d'émoi sur leur hypothétique sur-rentabilité. Prenez la carte des années 60, auxquelles vous faisiez référence, et la carte aujourd'hui, routière. Vous voyez à quel point les autoroutes, dont le modèle économique est contesté aujourd'hui, ont aménagé le territoire. Moi, je pense vraiment qu'il faut arriver à pacifier ces débats. Chaque mode de transport a sa pertinence. Le fret ferroviaire est plutôt un mode de transport de marchandises pour les trajets de plus de 400 km. 200 km.
Vous dites que vous êtes...
Et donc, il faut raisonner vraiment par pertinence de mode et par complémentarité.
Vous dites que vous êtes habitué à la conflictualité en étant ministre des Transports. On vous a sûrement dit, mais c'est quand même curieux qu'Emmanuel Macron, qui est celui qui a lancé les fameux bus Macron, vienne maintenant au secours du ferroviaire, alors que ces bus ont eu pour but, au départ, en tous les cas, de pallier la fermeture de certaines lignes, ou même de les concurrencer et de concourir à leur fermeture. On vous l'a sûrement dit dans des discussions avec les syndicalistes en particulier.
Non. D'abord, moi j'ai beaucoup échangé avec le président de la République sur ces sujets. Et c'est vrai que quand on se remet depuis 2017 sur les actions concrètes que nous avons entreprises, je pense qu'on est le premier gouvernement à avoir repris 35 milliards de dettes. 35 milliards de dettes à la SNCF, d'avoir investi massivement sur le réseau, comme jamais. On a investi plus de 3 milliards d'euros sur le réseau, c'était encore à peu près 1 milliard au moment de l'accident de Brétigny. Donc on a vraiment fait une transition et on a vraiment beaucoup plus investi depuis 2017 sur le ferroviaire que sur d'autres modes, et singulièrement par rapport à d'autres gouvernements. Moi j'ai beaucoup échangé avec le président sur le fret ferroviaire, les petites lignes, le train de nuit, et je pense avoir réussi à faire prospérer mes idées, et je suis ravi qu'il les reprenne et qu'il leur donne cette dimension-là. Et je pense qu'on va être en mesure d'ailleurs de faire prospérer ces protocoles de sauvetage des petites lignes, de faire advenir de nouveaux modèles, d'encourager des initiatives, et que ça crée effectivement une génération ou une décennie qui est très favorable au mode ferroviaire.
Alors, pas seulement le président, le Premier ministre aussi. Absolument. À Valenton, c'était le 27 juillet.
Qui a écrit sur le ferroviaire.
Nous voulons développer ce qu'on appelle des autoroutes ferroviaires. Vous avez face à vous un Premier ministre qui a été profondément meurtri par l'affaire du train dit des primeurs, Perpignan-Rungis, c'est-à-dire une situation peu compréhensible par nos concitoyens, avec tous ces camions sur les routes. Et là, on ferme un mode de transport écologique qui doit être plus efficace, qui doit être plus robuste. Donc nous avons la ferme intention non seulement de rouvrir, mais de développer ces autoroutes ferroviaires. Donc nous ferons un Bayonne-Cherbourg, un 7-Calais, et donc le Perpignan-Rungis, qu'on veut d'ailleurs inscrire sur un axe plus large qui irait d'Anvers à Barcelone.
Voici donc ce que disait à l'instant même, ou presque, Jean Castex. Donc ces autoroutes ferroviaires, 3 ça suffit pour la France, 3 autoroutes ferroviaires de ce type-là, ou ça n'est qu'un début, en l'occurrence Jean-Baptiste Djebbari?
Ce n'est qu'un début, et c'est l'horizon utile et politique dans lequel nous nous inscrivons, puisque nous ambitionnons de les rouvrir avant 2022.
Oui, donc
nous avons là jusqu'en 2022. Ouais. Et par ailleurs, ce sont des projets qui sont déjà portés par Brittany Ferries, par exemple sur l'axe Cherbourg-Bayonne, avec des travaux qui sont en cours. Donc on sait que ces projets sont matures. Perpignan-Rungis, on a un problème de modèle économique, parce qu'aujourd'hui, quand vous mettez un conteneur sur le train, le conteneur sur le train coûte 30% plus cher que le même conteneur sur un camion qui passe par la route.
Donc on a un vrai problème. Pollution, c'est pas tout à fait la même
de
chose.
De modèle économique, évidemment. Donc on agit sur deux volets. D'abord, nous avons abaissé le prix des péages ferroviaires. Nous soutenons l'exploitation et donc les opérateurs. Et puis nous allons beaucoup plus investir, notamment sur ces axes structurants. Et moi, j'avais proposé qu'effectivement, on raisonne de façon beaucoup plus européenne sur le sujet. Descendre à Barcelone, remonter à Anvers ou à Dunkerque, ça fait sens. Et on a trop souvent mésestimé l'intérêt de mieux connecter le ferroviaire et le portuaire. Raison pour laquelle, en France singulièrement, nous nous sommes, handicapés sur la capacité à transporter des marchandises. Et je pense qu'il faut absolument tout revoir. Moi, j'ai fait travailler il y a quelques jours le port de Dunkerque et SNCF Réseau. Et nous avons déterminé, mais ça paraît fou de le dire comme ça, qu'il manquait 2 centres de triage en région parisienne. Mmh. Parce qu'ils sont actuellement saturés. Vous voyez à quel point l'ensemble de ces investissements sont croisés, le portuaire, le ferroviaire, et à quel point il faut européaniser notre réflexion sur ces sujets.
Juliette Mollat, quand on comprend la complexité de cette organisation ferroviaire autour d'acteurs qui sont très différents, les régions, l'État, la SNCF, les intercommunalités, les nouveaux acteurs que peuvent être Railcoop ou des acteurs privés, on se dit mais c'est tout de même très difficile à trouver un moyen pour tirer la pelote et puis comprendre comment on peut totalement rénover, comme semble le dire le ministre à l'instant même, Jean-Baptiste Djebbari, tous ces réseaux dans une durée relativement courte pour les 2 ans qui viennent et puis peut-être un peu plus longuement ensuite.
Effectivement, c'est un enchevêtrement d'acteurs et vous avez mentionné les intercommunalités, hein, les métropoles, mais aussi d'autres intercommunalités qui aussi ont un rôle important, notamment dans les investissements sur les RER, enfin ou en tout cas sur les dessertes urbaines et périurbaines. Un réseau d'acteurs compliqué et puis effectivement, disons, j'entends Monsieur le Ministre beaucoup insister sur une sorte de changement de cap en termes d'investissement. Vous évoquez la reprise de la dette de 35 milliards. Peut-être qu'il faut souligner que cette reprise de la dette, ça n'est pas un cadeau hein, qu'a fait l'État aux collectivités, mais c'est plutôt à la SNCF. Mais c'était une condition hein, du passage de la SNCF en société anonyme. Hein. L'État n'avait pas vraiment le choix et c'était une des conditions de son projet de passage en SA. Donc, disons que j'entends cet effort souhaité sur les investissements en matière ferroviaire et ils sont intéressants. Maintenant, ce que montrent différents travaux, c'est que voilà, les régions, les collectivités attendent de voir en quelque sorte quels seront effectivement le montant des investissements qui seront engagés et est-ce que ils permettront de maintenir et de renouveler le réseau qui, on doit le rappeler, hein, est vraiment dans un état qui est
difficile.
Dégradé et qui contraint fortement le développement des services.
Nicolas de Bézieux, si je me trouve en France sur l'axe Bordeaux-Lyon en vacances, ou même si j'y vis, je me dis quand est-ce que je pourrais emprunter cette nouvelle ligne, ou plutôt la rénovation d'une ligne ancienne, parce que ça existait auparavant, et quand est-ce que je pourrais profiter, et à quel prix, de ce type de transport?
Alors, la ligne existe.
Oui, c'est ça.
Il n'y a pas le service
dessus.
Il n'y a pas le service dessus.
Voilà, c'est ce que je veux dire.
C'est important de le souligner, c'est qu'il y a encore... le réseau, enfin, on a quand même encore un réseau qui est là et qui demande qu'à être exploité, en fait, quelque part. Ouais. Alors, il y a des investissements qui doivent être faits. Donc, nous, on a prévu pour un lancement à l'été 2022, pour mi-2022.
Ça me coûtera combien si je prends le...
Alors, on est parti sur un prix à hauteur du covoiturage, donc on sera sur 38 euros à peu près sur le Bordeaux-Lyon, en prix de référence qu'on a fait.
Il faudra combien de temps pour faire Bordeaux-Lyon ?
Alors, il faudra 7 heures. Donc, ce qui est un peu plus long qu'en voiture, mais on a clairement identifié qu'il y avait un besoin. D'ailleurs, la majeure partie de notre potentiel, en fait, on va pas le prendre au train, on va pas le prendre non plus à l'avion, et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que je vous rejoins tout à fait quand vous disiez une complémentarité des modes. L'idée, c'est pas d'opposer les modes, c'est juste d'avoir le bon cadre de référence quand on compare les différents systèmes. C'est d'essayer de se dire, ah ben tiens, à un moment donné, oui, pour certains trajets courts. Où il y a une ligne TGV, ça fait pas beaucoup de sens à un moment donné de prendre l'avion, mais sur certains territoires, bien entendu, quand on a Aurillac, qu'on veut aller à Paris, oui, il faut qu'il y ait une desserte aérienne, parce que effectivement, ça répond à un besoin spécifique. Mais ce qui est important, c'est d'avoir tous les éléments qui permettent de bien comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a tel ou tel mode de transport qui doit se développer.
Jean-Baptiste Jebari, ça tombe bien, 2022 pour l'ouverture de cette ligne, vous serez souvent à l'inauguration, et si c'est avant l'été, peut-être le président sera-t-il là pour l'inauguration. On se souvient du moment où le président Mitterrand avait inauguré les lignes de TGV, la première d'ailleurs, qui n'avait pas été décidée par lui, mais par son prédécesseur en l'occurrence.
Non, mais c'est vrai que ça a toujours un caractère très symbolique. Moi, j'avais inauguré comme député aux côtés du président la fameuse LGV Paris-Bordeaux, qui met maintenant Bordeaux à 2h04 de la capitale.
Et à Poitiers, 1h35, quelque chose comme
exactement.
Ça.
Exactement. Et c'est toujours des moments assez incroyables, d'abord parce qu'il y a beaucoup de technologies, c'est la dimension du rêve, et puis je pense qu'on peut assez largement se convaincre que depuis Concorde et le TGV, on n'a rien inventé dans le domaine des transports qui soit de cette dimension-là. Et moi, je reviens juste sur un point sur la dimension populaire du trajet ferroviaire, très court. Les trains de nuit, c'est intéressant. Vous avez 28 lignes de trains de nuit en Autriche, et vous avez souvent deux types de personnel. De type de segment de marché, comme on dit vulgairement, qui voyage. Vous avez des petits budgets. Nous avons beaucoup les jeunes. J'ai fait plus jeune et j'ai adoré ça. Et puis ceux qui ont envie de voyager autrement, sur des modèles plus premium, qui coûtent éventuellement plus cher. Et vraiment, il y a pour ces deux types de populations-là, je crois, un nouveau modèle, une nouvelle façon de voyager. Et le ferroviaire permet et permettra, je crois, dans les années qui viennent, de profiter du déplacement autrement.
Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être venu à cette émission donc consacrée à la question du train, de la rénovation des lignes, également de la capacité de ce train de reprendre peut-être des parts de marché aux autres modes de transport. Merci Jean-Baptiste Djebari, merci à vous Nicolas de Bézieux, ainsi qu'à vous Juliette Molla. Demain, donc, nous traiterons évidemment, comme tous les jours, d'un tout autre sujet, mais il faut remercier l'équipe du Temps du Débat, Sophie Alavie, Nicolas Berling, Alexandra Delbeau, Audrey Dugas, Mathilde Tonfourcade, à la technique Jérémy Kaufmann et à la réalisation Émilie Valin.